Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre journée de la transition professionnelle écologique et solidaire. On est très heureux de vous accueillir parmi nous pour cette journée qui a vraiment vocation à vous aider à réfléchir à votre évolution professionnelle, à vous mettre en lien avec tout un tas de structures qui peuvent être à vos côtés dans cette étape-là de votre vie et à vous partager des trucs et astuces, à vous inspirer pour que vous ayez matière à avancer. Et donc, on va pouvoir amorcer ensemble cette réflexion avec cette conférence plénière qui a vocation à être une introduction à la journée, à vous inspirer, à vous partager aussi des réflexions. Et je ferai des liens avec un certain nombre de ressources que vous pourrez trouver au fur et à mesure de la journée, de manière à ce que vous ayez des idées, des personnes à qui aller parler suite aux échanges qu'on aura eus ensemble. Donc là, l'idée, c'est d'être dans cette salle jusqu'à 11h. Et donc, on sera trois personnes à intervenir successivement. Donc, pour me présenter, je m'appelle Fanny. Je fais partie des fondateurs et fondatrices de l'Institut Transition. J'ai une fonction de coordination générale avec un mandat en particulier sur le programme Nouvelle Voie, qui est notre programme de formation et d'accompagnement dédié aux personnes en évolution professionnelle. Donc, beaucoup de choses que je vous partagerai aujourd'hui sont issues à la fois d'un projet de recherche-action qu'on a fait il y a un peu plus de 4 ans maintenant sur les personnes en évolution professionnelle pour comprendre quelles étaient leurs motivations, leurs freins et pour essayer de voir quelles étaient les stratégies qu'elles mettaient en œuvre pour avancer. Et puis, c'est aussi, bien sûr, lié à tout ce qu'on observe chez les personnes qu'on accompagne depuis 5 ans. Donc, je me référerai régulièrement à ce qu'on a pu percevoir et comprendre de leur cheminement. Et à mes côtés, donc, il y a Antoine qui pourra témoigner et Ségolène. Donc, deux personnes elles-mêmes en évolution professionnelle qui, comme vous le verrez, en sont pas tout à fait au même point de leur cheminement, mais qui vous partageront leur vécu, qui fera certainement écho à ce que vous pouvez traverser et qui, j'espère, vous donnera des billes pour avancer. Alors avant toute chose, peut-être un tout petit mot sur l'Institut Transition, qui est la structure organisatrice de la journée, aux côtés de la métropole de Lyon, que je remercie vraiment pour son accueil. Donc l'Institut Transition, c'est un organisme de formation qui a été créé en 2020 et qui s'adresse aux personnes qui agissent en faveur de la transition écologique et des solidarités. Donc on a différents programmes de formation qui s'adressent à des personnes qui ne sont pas situées exactement au même endroit de cet écosystème. Notre premier programme de formation qui est le plus en lien avec la journée d'aujourd'hui s'appelle Nouvelle Voie. Donc c'est un programme de formation et d'accompagnement d'un an qui s'adresse aux personnes en évolution professionnelle. Donc des personnes qui ont toutes déjà un vécu professionnel avec une des expériences qui les ont amenées là où elles en sont aujourd'hui et qui vont être en réflexion pour retrouver du sens et de l'utilité dans leur travail. C'est un programme qui a vraiment vocation à leur permettre de monter en compétences et à se repositionner professionnellement pour s'insérer dans des écosystèmes qui seraient plus en phase avec leurs valeurs du moment. Donc voilà, ça c'est notre première mission. Notre deuxième mission, c'est de former et d'outiller les personnes salariées et dirigeantes des associations et des entreprises qui agissent en faveur de la transition écologique et solidaire. Donc c'est des personnes qui sont dans des structures qui en général sont vraiment alignées avec leur raison d'être, qui ont déjà une connaissance des enjeux écologiques et solidaires, mais qui vont plutôt avoir besoin de monter en compétences pour renforcer le développement de leur structure. Donc on propose une diversité de formations courtes sur les questions de communication, de management, d'accueil et d'accompagnement des bénévoles. Voilà, on a une trentaine de propositions pour leur permettre de monter en puissance dans leur poste. Dernière mission, ça va être de former et d'accompagner tous les acteurs des solidarités qui ont envie d'intégrer la transition écologique et solidaire dans leur structure. Voilà, l'idée, c'est de les accompagner à la fois dans leur éco-responsabilisation, mais aussi dans la manière d'intégrer les enjeux écologiques dans leur métier au quotidien pour qu'ils puissent être des outils de prise de conscience de leurs bénéficiaires. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait. La particularité de l'Institut, c'est d'être porté et par des personnes formatrices et accompagnatrices qui sont toutes à la fois impliquées dans l'Institut et dans d'autres structures, associations, entreprises, institutions engagées en faveur de la transition. L'idée étant vraiment qu'on puisse créer des liens entre toutes les personnes qu'on forme et qu'on accompagne et les réseaux qui ont besoin d'elles pour réussir à grandir. L'objectif final étant, bien sûr, d'accélérer la transition écologique et solidaire de notre société. Donc voilà un petit peu pour vous redire qui on est. Vous aurez probablement l'occasion de nous découvrir davantage au fur et à mesure des conférences, des ateliers. N'hésitez pas, on a aussi un stand pour parler de manière plus interpersonnelle avec vous, avec à la fois des membres de l'équipe et puis des personnes apprenantes qui peuvent aussi vous partager leur vécu et leurs expériences. Alors qu'est-ce qu'on va faire ce matin ? L'idée, ça va être vraiment de pouvoir décrire ensemble qui sont les personnes qui aujourd'hui sont en évolution professionnelle, motivées par une quête de sens et d'utilité. Donc peut-être que ces portraits-là feront écho et que vous vous reconnaîtrez dedans. Ce sera aussi de vous partager ce qu'on peut faire, ce qu'on peut mettre en œuvre pour avancer dans son cheminement. Et puis, l'idée, ce sera de vous inspirer grâce aux témoignages d'Antoine et Ségolène qui vous raconteront comment ça s'est passé pour eux. Avant tout ça, ce que je vous propose, c'est de prendre un tout petit temps pour découvrir la personne qui est à côté de vous. Parfois, quand on est en évolution professionnelle, on peut se sentir un peu isolé. Mais comme vous pouvez le voir, en fait, vous êtes assez nombreux et nombreuses à être concernés. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre juste 2 minutes pour vous retourner vers votre voisin et votre voisine et vous expliquer pourquoi vous êtes là ce matin. Enfin, qu'est-ce qui vous a amené à venir à la métropole de Lyon à 9h30 ? Qu'est-ce que vous recherchez de la journée. Et puis, je sonnerai le gong au bout de 2-3 minutes. C'est un moment souvent difficile pour reprendre le contrôle, mais voilà, on prend le risque. Donc voilà, pourquoi vous êtes là ? Alors, on va reprendre tous ensemble, s'il vous plaît. C'était pas si difficile. Merci beaucoup pour votre attention. Donc vous avez au moins identifié une personne avec laquelle vous allez pouvoir passer la journée. Pour rentrer plus dans le cœur de cette conférence, ce que je vous propose, c'est de vous partager un certain nombre de choses que nous, on observe chez les personnes qui sont en évolution professionnelle parce que en quête de sens et d'utilité dans leur travail. Nous, ce qu'on remarque chez ces personnes, c'est que contrairement à ce qui pourrait être dépeint par un certain nombre de médias, la quête de sens au travail, c'est pas un phénomène de génération. C'est-à-dire que ça ne concernerait pas uniquement la génération Y, Z ou je ne sais quoi, qui serait particulièrement difficile à manager ou qui aurait particulièrement du mal à trouver sa place dans le monde du travail. Nous, ce qu'on voit tous les jours, c'est que c'est un phénomène qui concerne tous les âges, qui concerne les hommes et les femmes et qui concerne l'ensemble des secteurs d'activité. Donc, ce qui nous semble, c'est que c'est plutôt un phénomène d'époque plus qu'un phénomène de génération et qui est vraiment lié au contexte dans lequel on vit, un contexte qui est marqué par des crises écologiques, par des enjeux extrêmement forts de solidarité qui appellent un certain nombre de personnes à se mettre en mouvement et que finalement ça peut concerner chacun et chacune d'entre nous. Ceci étant dit, on remarque quand même deux grands profils qui sont particulièrement présents chez les personnes que l'on rencontre. Le premier type de profil, c'est ce que nous on appelle au sein de l'Institut les parcours de non-choix. Les parcours de non-choix, c'est des personnes qui ont souvent fait des études, qui ont eu un certain nombre d'expériences professionnelles sans s'être jamais vraiment posé la question de qui elles étaient et de ce qu'elles avaient envie de faire. Donc c'est souvent des personnes qui pouvaient avoir un certain nombre de facilités ou qui pouvaient aussi être portées par des attentes de leur famille, de leur milieu, qui les ont amenées à prendre une route sans forcément en avoir tout à fait conscience et qui, à un moment donné, se retournent sur tout le chemin qui a été parcouru et qui se disent « mais en fait, je ne sais pas du tout pourquoi et comment j'en suis arrivée là ». Donc l'exemple un peu typique qu'on voit, nous, dans nos promotions, c'est les personnes qui ont fait une prépa scientifique, qui sont rentrées dans une école d'ingénieurs et qui, à un moment donné, se disent « mais moi, c'est pas du tout à ça que j'ai envie de contribuer ». Voilà, donc ça, c'est le premier profil. Donc je parle des ingénieurs parce que c'est particulièrement massif, mais ça peut concerner, bien sûr, tout un tas d'autres secteurs d'activité. Deuxième type de profil, ce qu'on, nous, on appelle les métiers passion, vocation, qui, à un moment donné, sont quand même en crise de sens. Donc là, c'est des personnes qui avaient fait un vrai choix, potentiellement, mais qui, au bout d'un certain temps, à travailler là où elles avaient choisi d'être, peuvent se poser également des questions. Ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut être d'abord parce que l'organisation du travail ne leur permet pas de vivre ce qu'elles avaient envie de vivre ou d'apporter ce qu'elles avaient envie d'apporter aux personnes auprès desquelles elles agissent. Ça peut être aussi parce qu'entre-temps, elles ont eu des prises de conscience écolo et qu'elles auraient envie de mettre leur énergie en faveur de la transition écologique. Donc pour vous donner des exemples, ça peut être des personnes enseignantes, professeurs, travailleuses sociales qui agissent dans le secteur du soin et qui à un moment donné se disent « non mais là, je sens que je ne suis plus alignée avec ce pourquoi j'avais choisi de prendre cette voie. » Et donc, je me repose des questions. J'ai envie de retrouver du sens, de me repositionner également dans mon parcours professionnel. Donc voilà, ça, c'est deux tendances qu'on voit quand même assez fortes parmi les personnes que l'on rencontre. Alors, la question qui peut se poser, c'est finalement quels sont les moteurs en commun de toutes ces personnes qui évoluent professionnellement, parce qu'il faut être quand même sacrément motivé quand on sait ce qu'on quitte, mais qu'on ne sait pas encore très bien ce qu'on va trouver. Enfin, ça demande quand même de l'énergie, du courage, et c'est souvent qu'on a quand même quelque chose qui nous anime. Et donc là, l'idée, c'est de venir explorer ça pour que vous puissiez peut-être mettre des mots sur ce que vous traversez et que vous puissiez aussi identifier un certain nombre de choses qui pourraient vous aider à avancer. Alors la première quête que nous on voit très présente, c'est ce qu'on appelle la quête de sens. La quête de sens, c'est vraiment quand on est finalement en dissonance dans sa vie professionnelle avec les valeurs qu'on porte dans sa vie personnelle. Donc ce sentiment de dissonance, ça crée un sentiment de fatigue, de dissociation, ça peut créer aussi de la colère et de la frustration. Et donc évoluer professionnellement, ça a vraiment cet objectif de nous permettre de nous réaligner avec nos valeurs pour retrouver de l'énergie dans sa vie professionnelle. Deuxième quête, la quête d'utilité, c'est quand finalement on a l'impression de ne servir à rien, voire même d'être contre-productif dans sa vie professionnelle. Pardon. Et donc l'idée, ça va être vraiment d'essayer de trouver un endroit, une structure qui aura un impact positif sur la société et dans lequel on aura l'impression de vraiment jouer positivement. Troisième quête, la quête de lien. Donc là, c'est quand les personnes se sentent en décalage par rapport aux collègues, par rapport aussi à la dynamique humaine qui a lieu dans les entreprises, les associations et les institutions, et qui se disent « non mais là, j'aurais vraiment besoin d'aller dans un univers professionnel où à la pause café, je réussis à partager sur ce qui m'anime et je ne me sens pas sans cesse en décalage avec les personnes que je fréquente le plus au quotidien ». Quatrième quête, la quête de découverte. Donc là, c'est vraiment plutôt quand on a l'impression d'avoir fait le tour de son poste, qu'on a le sentiment de ne pas réussir à apprendre, à se développer. Donc l'évolution professionnelle, c'est une manière aussi de se donner des nouveaux défis, d'apprendre, de se sentir à nouveau progresser et grandir. Et dernière quête, la quête d'aventure, c'est le besoin qu'on a de ne pas être seulement des outils au service d'une organisation, mais de vraiment participer à la définition de sa stratégie et d'être vraiment partie prenante de tout ce qui va être mis en œuvre dans la structure. Donc vous voyez cinq quêtes qui peuvent amener à se mettre en mouvement. Alors certaines personnes parfois me demandent, mais est-ce que c'est normal si j'ai toutes ces quêtes en même temps? Tout le monde peut être concerné plus ou moins en fonction de sa vie par une, deux, trois, cinq quêtes. L'idée, quand on les identifie, c'est qu'on peut aussi commencer à se formuler un certain nombre de critères de choix pour savoir ce qu'on doit plus particulièrement aller chercher dans une vie professionnelle future. Alors, ce que je vous propose, c'est de prendre juste peut-être une petite minute avec vous-même pour essayer de vous questionner sur vous, comment ça rentre ou non en résonance avec votre vécu du moment. C'est-à-dire, est-ce que y a une quête où vous vous dites, là, en fait, je sens que ça me correspond, ça me touche. Est-ce que y en a une où vous dites, ça c'est bon, je sens que à cet endroit-là, je suis suffisamment nourrie par ma vie professionnelle. Voilà, ça peut vous amener à avoir de la matière pour la suite. Alors, la question qu'on peut se poser quand on sait un petit peu plus quels sont nos moteurs, ce qui nous amène à avoir envie de bouger, c'est qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour avancer dans les réflexions qui sont les nôtres ? Là, ce que je vous propose, c'est de vous partager un certain nombre de pistes que vous pouvez prendre dans un sens, dans un autre. Enfin, il n'y a pas de process extrêmement ferme. L'idée, c'est plutôt de voir qu'est-ce qui vous attire au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui vous donne envie d'y aller et saisissez-vous de cette piste en particulier. Donc, première piste, il pouvait être intéressant de prendre le temps pour réfléchir à tous les moments dans vos vies où vous aviez eu des contextes, des expériences, des postures au cours desquelles vous vous étiez vraiment senti à votre place et aligné avec vous-même. À l'Institut, on dit vraiment que ça, c'est des petits cailloux blancs qui peuvent aider le petit poussé à retrouver son chemin. Une fois que vous les avez identifiés, ces expériences, ces contextes, ça peut être intéressant d'essayer de creuser pourquoi. Enfin, à ce moment-là, qu'est-ce qui faisait que vous vous sentiez à votre place et d'essayer d'imaginer dans quel autre type de contexte, notamment professionnel, ça pourrait se reproduire, se retrouver, puisque ça peut être des indices pour construire la suite. Donc voilà, première piste, relire son parcours. Deuxième piste, ça va être de quand même essayer de se projeter sur la suite. Donc, ce qui n'est pas évident quand on est en évolution professionnelle, c'est que la piste, c'est plein de chemins différents et on ne sait pas très bien lequel prendre. Donc, l'outil qu'on utilise au sein de l'Institut Transition, c'est ce qu'on appelle la boussole intérieure, qui est là pour nous aider à nous orienter et à savoir quel chemin on prend quand on se trouve à un embranchement. Donc cette petite boussole, elle est constituée autour de deux aiguilles qui sont deux questions qu'on est amené à se poser. La première aiguille, c'est ce qu'on appelle l'aiguille des valeurs. Donc ça va vous dire finalement quelles sont les valeurs, les défis, les causes, les enjeux qui vous animent plus particulièrement. Alors, on insiste sur la notion de animer. On peut être intéressé par plein de choses. Enfin, moi, il y a plein de choses qui m'intéressent. Je suis très curieuse dans la vie. Par contre, il y a moins de choses qui m'animent, c'est-à-dire qui me met en mouvement, qui fait que le matin, je suis vraiment enthousiaste pour me lever. Donc là, voilà, c'est vraiment cette notion d'être animé par quelque chose qu'il faut garder en tête. Deuxième aiguille, c'est l'aiguille qui va plutôt vous dire sur quel type de tâche, de mission, de posture vous vous sentez à votre place. Donc pour vous donner des exemples sur les causes, je peux être extrêmement choquée par l'épuisement des ressources, par le gaspillage. Je peux avoir envie d'œuvrer pour une société qui est plus sobre. Donc c'est ça que peut montrer ma première aiguille. Par contre, en fonction de ce que j'aime faire et de là où je me sens moi à ma place, ça peut donner des types de métiers complètement différents. Donc par exemple, moi je peux être très animée par les questions de transmission et de sensibilisation, et donc dans ce cas-là, je peux avoir envie plutôt de rejoindre une association qui œuvrerait à destination du grand public pour permettre aux personnes de prendre conscience et d'évoluer dans leur mode de vie. Mais je peux aussi avoir des appétences plus techniques, et avoir plutôt envie d'œuvrer pour la construction de filières de réemploi de matériaux BTP. Enfin, ça donne vraiment des parcours qui ne seront pas du tout les mêmes par la suite. Donc, voilà, n'hésitez pas à vous poser suite à cette conférence sur votre boussole intérieure qui peut déjà vous permettre de poser des mots sur un certain nombre de choses qui sont déjà présentes dans vos esprits. Alors, dans cette introspection-là, que ce soit pour relire son passé, pour se projeter dans la suite, on peut faire des choses tout seul, hein, naturellement. C'est pour ça que je vous partage des petits exercices, mais ça peut parfois être un peu difficile. Donc là, c'était juste pour vous dire qu'un certain nombre de structures existent justement pour vous aider dans ce processus d'introspection-là. Donc, c'est notamment des structures qui proposent des bilans de compétences qui, pour beaucoup aujourd'hui, ne sont plus centrées uniquement sur les compétences, contrairement à ce que indique leur nom, mais vont avoir une approche plus large de la personne en les aidant à identifier leurs valeurs, là où elles se sentent à leur place, comment elles veulent équilibrer leur vie personnelle, leur vie professionnelle. Et donc, vous avez un certain nombre de ces structures qui vont être présentes parmi nous aujourd'hui. Donc, je pense notamment à Connaissance, à ICO, au Pivoteur et à tout un tas d'autres structures qui sont là. N'hésitez pas à aller leur parler. Elles ont des petits stands pour les personnes pour qui ce serait le bon moment. Nous, on encourage toujours à aller voir plusieurs bilans de compétences parce qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre du feeling qui joue beaucoup. Pour être accompagné par quelqu'un, il faut se sentir bien avec ce quelqu'un. Elles n'ont pas tout à fait les mêmes entrées. Et donc, il faut voir en échangeant avec les uns et les autres lequel correspond le mieux à qui vous êtes, à votre culture et à ce qui vous aidera à avancer par la suite. Troisième piste, qui n'est pas la moindre, c'est celle d'essayer de se libérer un peu de temps. Alors, c'est ce que vous avez fait en venant aujourd'hui, donc merci pour ça. Mais c'est vrai qu'évoluer professionnellement en travaillant plus de 40 heures par semaine, en ayant une vie de famille, en ayant une vie aussi personnelle, ça fait beaucoup. Et ce qu'on observe, nous, c'est qu'il y a tout un temps de questionnement, de décantation, mais aussi d'expérimentation qui peut moins se faire si on n'arrive pas à dédier un peu de temps pour. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en pratique ? Ça peut vouloir dire des choses différentes. Hein. On voit des personnes qui vont plutôt essayer d'aménager leur temps de travail. Donc, ça peut être soit de le réorganiser sur la semaine pour avoir une demi-journée libre. Ça peut être essayer de passer à temps partiel pour un temps donné. Ça peut être pour certains aussi prendre un congé formation pour avoir un espace qui est vraiment dédié à l'évolution professionnelle. Et puis, ça peut être aussi pour d'autres quitter leur poste pour avoir le temps vraiment de se consacrer 100% à son évolution professionnelle. Donc, beaucoup, dans ces cas-là, essayent d'avoir une rupture conventionnelle pour réussir à sécuriser leur évolution. Mais ce n'est pas toujours possible si l'employeur n'est pas aligné avec cette stratégie. Donc, je voulais juste dire un mot sur un dispositif qui est encore assez méconnu d'un certain nombre de personnes, qui s'appelle le dispositif démissionnaire, qui permet aux personnes qui sont en poste depuis 5 ans, donc ça peut être sur le même poste ou à la suite, mais il ne faut pas qu'il y ait de rupture pendant 5 ans, qui permet en fait de démissionner en ayant ses droits au chômage. Donc il faut naturellement avoir un projet pour ça qui va être accompagné par un conseiller en évolution professionnelle. On passe devant un jury. Donc en général, il faut avoir un projet d'études, un projet d'entrepreneuriat pour avancer sur la suite. Mais donc nous, tous les ans, on voit beaucoup de personnes passer par ce dispositif-là et avoir une réponse positive. Donc l'opérateur de ça, c'est Transition Pro Aura. Et là, pareil, ils sont présents aujourd'hui. Donc, vous pouvez tout à fait vous rapprocher d'eux pour échanger sur leur dispositif et puis aussi pour avoir un retour sur votre potentielle éligibilité si jamais ça vous pouvez vous concerner. Quatrième piste, en plus de se libérer du temps, ça va être de passer à l'action. Ça, c'est vraiment un message qu'on martèle au sein de l'Institut Transition, c'est que, en fait, rester uniquement dans une logique d'introspection quand on est en évolution professionnelle, ça ne peut pas suffire, parce qu'assez rapidement, c'est la machine à laver qui tourne à vide, puisque on doit essayer de penser un projet professionnel sans connaître les structures, sans connaître les métiers, sans s'être découvert non plus dans ces types de contextes. Et donc, soit on n'arrive pas à imaginer grand-chose, soit on peut être aussi un petit peu dans le fantasme d'un monde qui serait vraiment meilleur sans s'y être vraiment confronté. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour passer à l'action ? Eh bien, la première chose qui ne demande pas énormément de risques, c'est d'aller à la rencontre de personnes engagées. Donc ça peut être des personnes qui sont bénévoles dans des associations, des personnes qui travaillent dans des structures qui vous semblent plus en lien avec ce que vous avez envie de porter aujourd'hui. Mais voilà, l'idée, ça va être d'aller échanger avec elles. À quoi ça sert ça ? Bah, c'est à la fois vous de poser des mots sur ce qui vous anime, sur votre parcours. Et ça permet déjà de beaucoup progresser. Et puis, ça va être d'avoir leur retour d'expérience qui va être peut-être inspirant, qui parfois va aussi faire émerger des points de vigilance ou des choses que vous ne voulez pas pour vous. Enfin, dans tous les cas, ça fait maturer. Et enfin, l'autre intérêt, c'est que c'est des personnes qui vont certainement vous conseiller des événements auxquels participer, des acteurs à aller rencontrer. Donc, vous rentrez dans une dynamique qui va vous raccrocher à tout un tas d'écosystèmes qui pourraient être ceux dans lesquels vous vous épanouirez par la suite. Donc voilà, ça c'est la première proposition. La deuxième proposition qui demande un peu plus de temps et d'énergie, bah, ça va être de s'engager bénévolement dans des structures. Ça a plusieurs vertus. La première vertu, ça va être de vivre de l'intérieur des structures qui nous intéressent pour savoir si finalement on trouverait vraiment sa place dedans. L'idée, ça va être d'éviter le syndrome de la tour Eiffel, c'est-à-dire... Enfin, vous voyez les personnes qui viennent de très loin, qui vont voir la tour Eiffel et qui se disent « Oh non, mais elle est toute petite. » Enfin, je m'étais imaginé qu'elle était quand même vachement mieux, la tour Eiffel. Pareil, la Joconde, quand vous la voyez en vrai, vous dites « Bon, bah, c'est quand même pas si ouf que ça. Bah, » C'est exactement le phénomène que peuvent avoir des personnes qui sont très loin du monde de la transition écologique et solidaire, qui vont fantasmer un monde qui serait parfait, dans lequel ils seraient tout à fait bien, et qui vont dans les associations et qui se disent « Ah, mais c'est pas si parfait que ça. » Et donc ça peut aussi générer de la déception. Donc là, l'idée, c'est de vivre des choses qui limitent cette frustration à venir. Par ailleurs, j'aurai l'occasion de revenir dessus par la suite, les recruteurs de ces structures sont extrêmement sensibles aux expériences d'engagement des personnes. C'est-à-dire une association qui voit arriver des profils qui ne viennent pas de ce monde-là professionnellement vont regarder s'il y avait quand même des signes dans leur parcours de valeurs partagées, des expériences diverses. Et s'il n'y a rien du tout, ça peut être un frein au recrutement dans ces organisations. Et puis, dernière proposition, en plus de l'engagement, ça peut être aussi de réaliser des immersions en milieu professionnel. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez discuter avec France Travail ou avec un conseiller en évolution professionnelle. Il n'y a pas besoin d'être demandeur d'emploi pour faire des immersions. On peut être aussi en poste. L'idée, c'est d'aller passer quelques jours dans une structure qui pourrait nous intéresser pour essayer de voir de l'intérieur ce que ça suscite chez nous, si ça nous conforte dans l'idée qu'on se sentirait bien ou si au contraire on se rend compte que c'était pas tout à fait ça. Et donc dans ce cas-là, c'est une porte qu'on ferme pour aller en tester d'autres. Alors là, pareil, petit focus pour les personnes qui auraient envie de rencontrer du monde ou de tester du bénévolat. Vous pouvez aller voir un acteur qui est présent ici aujourd'hui, qui s'appelle Anciela. Anciela, c'est une association qui accompagne les personnes qui agissent en faveur d'une société écologique et solidaire. Et donc notamment, il propose des temps d'accueil qui ont lieu tous les mardis de 16h à 19h30 dans leurs locaux à Garibaldi pour prendre le temps avec des personnes pour échanger sur leurs envies, leurs motivations et les renvoyer vers les associations qui leur correspondent ou pour leur conseiller des personnes à rencontrer. C'est vraiment une sorte de porte d'entrée dans le monde écolo et solidaire. Donc c'est vraiment un premier pas très facile et accessible que vous pouvez faire. Vous serez bien accueillis. Ils sont là, vous pouvez déjà commencer à en parler aujourd'hui pour voir si c'est suffisant ou si vous avez matière à passer au local prochainement. Alors, suite à tout ça, ce que je vous propose, c'est de réfléchir à vous, quels sont les prochains pas qui auraient du sens en fonction de où vous en êtes au jour d'aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est d'en parler ? Est-ce que c'est de vous poser la question, des questions tout seul ? Est-ce que c'est de vous faire accompagner ? Est-ce que c'est tout à fait autre chose ? Donc, on prend pareil 30 secondes pour essayer de se lister ce qui serait fertile et aidant pour avancer. Alors, dernier petit apport avant de donner la parole à Antoine et Ségolène. Un des grands freins quand même des personnes qui ont envie d'évoluer dans la transition, c'est qu'ils ne voient pas forcément qu'est-ce qu'on peut y faire concrètement, professionnellement. Donc, déjà, un petit état des lieux sur de quoi on parle en termes de structure. Donc nous, quand on parle de transition écologique et solidaire, en fait, ça correspond à toutes les structures qui essayent vraiment de faire basculer notre économie. Et donc, en pratique, ça peut être des structures au statut très différent. Ça peut être des associations, des entreprises, des coopératives, des institutions. Et en fait, elles sont souvent sur une diversité de sujets. Ça peut être sur la justice alimentaire, la nature en ville, les mobilités, les solidarités intergénérationnelles. Enfin, je ne vais pas faire toute la liste, mais c'est un secteur qui est extrêmement foisonnant et divers. Si on regarde après les types de postes qui sont très présents, vous allez voir que c'est des intitulés de postes qui sont en fait les mêmes globalement que dans les structures classiques. Donc, quand on vous pose la question, c'est quoi le métier ? Enfin, en fait, vous allez retrouver les mêmes titres de métiers, simplement, ils ne vont pas se vivre dans les mêmes types d'organisations et ils ne vont pas servir les mêmes types de finalités, en tout cas pour le plus grand nombre d'entre eux. Donc, premier type de mission qu'on retrouve beaucoup, c'est toutes les missions qu'on pourrait qualifier de missions classiques. Donc, je suis responsable administratif et financier, je fais de la communication, je suis chargée des ressources humaines, mais dans une organisation qui a du sens pour moi. Ça, c'est les premiers types de postes que l'on voit beaucoup actuellement. Deuxième type de mission, c'est ce que nous, on appelle les missions couteau suisse. Alors ça, ne cherchez pas l'intitulé comme ça, ça n'existe pas, c'est notre jargon à nous. Ce que ça veut dire en pratique, c'est qu'il y a énormément de postes où finalement, on va chercher des profils qui vont intervenir sur une diversité de missions en même temps. C'est-à-dire, je vais faire un peu de gestion de projet, un peu de com, et puis je vais être aussi pas mal sur le terrain pour faire de l'animation. Ça, c'est une tendance forte des structures de la transition. Ça s'explique à la fois par le stade de développement des organisations qui sont assez petites et où la polyvalence va être une nécessité, puisqu'on n'a pas un département pour chacune des dimensions. Mais c'est aussi une question de culture, c'est-à-dire qu'il y a aussi, dans ces structures-là, une critique de la fonctionnalisation qui fait qu'on va chercher à ce que les personnes puissent intervenir à différents endroits en même temps. Ça va impliquer pour un certain nombre de personnes en évolution professionnelle d'aller développer de nouvelles compétences en plus de leur cœur de métier pour pouvoir émarger à cette polyvalence-là. Et pour finir, il y a quelques métiers spécifiques, mais qui sont souvent des déclinaisons de métiers qui existent, mais avec une grande intégration de la transition écologique. Enfin, je vous donne des exemples. On va avoir des personnes qui sont jardiniers, jardinières, épiciers, épicières. C'est des métiers qui existaient avant, mais où l'idée, ça va être de le vivre autrement pour que ce soit vraiment des accélérateurs de la transition. Donc voilà un peu pour les grands types de postes. Après, la question qui se pose souvent et que vous pourrez creuser davantage dans la conférence Transition écolo, il y a du boulot, c'est en fait, est-ce que les recruteurs veulent bien de nous qui ne venons pas de ces secteurs-là, de ces métiers-là ou pas entièrement. Nous, on a fait une enquête, hein, bien sûr, avant de lancer Nouvelle Voie auprès de recruteurs. Et puis depuis, on voit quand même chaque année une cinquantaine de personnes qui s'insèrent professionnellement. Donc la réponse est oui, les recruteurs veulent bien des personnes en évolution professionnelle. Par contre, il y a des points sur lesquels ils vont être attentifs et que je vous partage pour que vous les ayez en tête. Le premier point, c'est que les recruteurs, en fait, ont toujours peur du fait que des personnes en évolution pro, comme je vous le disais tout à l'heure, aient fantasmé le monde qu'ils rejoignent et en plus qu'ils soient un peu loin culturellement. Des structures. Alors, qu'est-ce que ça veut dire loin culturellement ? Ça peut être, je connais un peu les enjeux de transition écologique et solidaire, mais j'en ai encore une connaissance assez superficielle. Et donc, j'ai plein de fausses bonnes idées parce que je ne les ai pas suffisamment creusées. Et donc, pour la structure, ce n'est pas évident à accompagner. Et puis, ça peut être vraiment lié à des différences de culture organisationnelle. Sur les questions d'horizontalité, de collégialité, enfin des choses comme ça qui amènent les personnes à avoir du mal à se positionner. Donc ça va être un des points qu'ils vont essayer de venir valider dans une candidature et où il peut y avoir un enjeu à avoir vraiment creusé ces questions-là pour pouvoir rassurer le recruteur. Deuxième point que j'ai déjà évoqué, la plupart des postes sont des postes couteau suisse et donc il va falloir pouvoir justifier qu'on est en capacité d'être polyvalent et de mettre un peu les mains dans le cambouis. Et donc là, pareil, d'avoir vécu un certain nombre d'expériences, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et puis, dernier point que j'évoquais au préalable, mais qui est absolument essentiel, c'est comment est-ce que vous pouvez vous construire et valoriser des espaces d'engagement si vous ne les avez pas encore, parce que ça va être vraiment un point déterminant. Ce n'est pas grave si on vient d'un milieu professionnel très éloigné. Par contre, l'idée, c'est de pouvoir montrer qu'on a essayé d'incarner un certain nombre de valeurs et qu'on ne va pas vivre la première expérience d'engagement avec eux. Donc voilà un petit peu pour les sujets clés que vous pouvez essayer de nourrir dans les prochains mois pour mettre toutes les chances de vos côtés. Et donc c'est notamment là-dessus que nous, on intervient à Nouvelle Voix, d'essayer de faire monter en compétences, en réflexion, de faire vivre un certain nombre de choses pour venir sécuriser l'insertion professionnelle future. Mais on pourra en reparler si vous avez des questions. Ce que je vous propose pour qu'on ait bien le temps, c'est de laisser témoigner Antoine et Ségolène. Donc pour vous dire un petit peu comment ça va se passer, je vais leur poser des questions à tous les deux, mais il y aura un temps de questions-réponses à la fin, donc n'hésitez pas au fur et à mesure à vous poser les questions, à vous noter les questions que vous aurez envie de vous poser. Il y aura vraiment la possibilité de le faire. Eh ben, merci à tous les deux d'être là parmi nous. Est-ce que, pour commencer, vous pouvez déjà vous présenter chacun vos parcours et comment vous avez eu envie de changer, comment et pourquoi? Et si tu veux, allez.
Je commence. Vas-y. Test micro. Oui. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi, je m'appelle Ségolène. J'ai une formation d'ingénieur en mécanique. Pour vous situer aussi sur ma carrière, j'ai 32 ans. Et à l'issue de mes études, moi, je me suis vraiment posé la question de mes valeurs. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était pas de travailler dans l'automobile ni dans l'aéronautique, ce qui fait que beaucoup de portes se sont fermées suite à un parcours en mécanique. Et j'ai découvert un peu par hasard un domaine que je trouve assez niche, qui est le domaine du luxe. Je n'y connaissais rien et je me suis dit, c'est chouette. On travaille des belles matières, on fait des produits qui durent dans le temps et tout ça dans une production française. Et donc, j'ai travaillé 7 ans dans l'industrie de l'artisanat de luxe, chez Hermès plus précisément. Donc voilà, je ne sais pas s'il y en a d'autres dans la salle. Non ? Bon, très bien. C'était une chouette expérience. Et en fait, au bout d'un moment, on a été formés à la fresque du climat. Donc on a tous été fresqués. C'était obligatoire quand on était cadre. Et après, ils nous ont proposé d'être animateurs. Et c'est là que tout a basculé. Parce qu'en fait, en étant animatrice, je me suis formée, moi aussi, aux enjeux. Je voulais en savoir plus pour avoir les réponses aux questions que tout le monde se posait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans ma boîte, du coup, on m'envoyait parcourir la France pour fresquer les maroquineries, les fournisseurs. Et donc, pendant un an, j'ai fait ça. Et donc, il y a deux choses qui se sont passées. J'ai adoré de plus en plus animer des fresques. Et je trouvais que c'était vraiment ça, à la fin d'année, que je préférais dans mon travail. J'étais responsable qualité. Et en même temps, du coup, je me rendais compte que l'état du monde était quand même pas fifou et que faire des sacs à main à 10 000 euros, c'était peut-être pas la priorité. Et forte de cette analyse que j'ai faite avant mon EFA, je me suis dit que ce serait quand même chouette de regarder d'autres pistes. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à me poser des questions sur une reconversion professionnelle éventuelle. Mais ça, je détaillerai à la suite. À toi Antoine.
Merci. Bonjour à toutes et tous. Donc moi je suis Antoine, je m'appelle Antoine, j'ai 34 ans et moi j'ai un parcours de communicant, donc j'ai fait 10 années de communication. Par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, moi c'était vraiment un métier passion, on va dire. Je suis vraiment choisi. Depuis mes 14 ans, je voulais faire de la com. Donc j'ai poursuivi ce parcours-là en me spécialisant dans l'audiovisuel. Et puis après, j'ai voulu toucher un petit peu à tout, c'était mon objectif. Donc j'ai fait différentes expériences. Pour être très honnête, moi je ne choisis pas forcément le secteur de l'entreprise, mais les missions qui étaient proposées en termes de communication. Donc j'ai fait de l'audiovisuel, j'ai après travaillé un peu dans le marketing, web marketing, et puis j'ai terminé en faisant un peu de la coordination de projet, gestion de projet, mais toujours sur ces sujets de communication. Donc moi ça me passionnait, j'étais content de faire ce que je faisais, même si au fil des années je me posais quand même beaucoup de questions sur le sens, et notamment le sens dans surtout de l'entreprise ou la structure dans laquelle j'étais, où il y avait vraiment des dissonances vraiment fortes par moment, et je trouvais pas que dans le poste que j'occupais j'agissais vraiment pour une société beaucoup plus juste et beaucoup plus durable. Donc je me suis posé beaucoup beaucoup de questions. Ce chemin a été un peu long, mais c'est surtout qu'au bout des 10 ans, je pense que j'avais fait en tout cas à l'époque, je me disais que j'avais fait un peu le tour de la question. Mon déclic, je pense qu'il a été un peu au fur et à mesure. Il n'a pas eu un déclic comme tu as pu le dire toi, Ségolène. Mais quand je suis arrivé à Lyon en 2018, j'avais déjà cette question de pouvoir être dans une structure un peu plus éthique, où j'agisse un peu plus. Mais j'ai pas réussi forcément à le faire. Et j'ai découvert une structure type Anciela, j'ai découvert le magazine qui m'a permis aussi d'agir à Lyon, qui m'a permis de me dire qu'il y avait des possibilités, qu'il y avait plein de choses. Donc j'ai fait mûrir un peu ce projet-là, et du coup, au bout d'un moment, j'ai fait une rupture conventionnelle avec ma structure. Mais ça, je crois, c'est pareil, on va y échanger peut-être plus précisément tout à l'heure.
Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire, une fois que vous avez eu conscience que vous aviez envie de bouger, qu'est-ce que vous avez mis en œuvre pour réussir à avancer? Puis si vous avez envie de partager sur des freins particuliers aussi et les stratégies que vous avez mis en œuvre pour réussir à les lever.
Je commence aussi. Moi, j'ai un souvenir assez clair. Je pense qu'un des freins que j'avais, c'était le salaire. En fait, j'avais peur que mes parents me disent « Mais qu'est-ce que tu fais, ma fille ?» Et du coup, ce que j'ai fait, c'est une grande équation mathématique. J'ai calculé mon taux horaire, en fait. Je partais tout le temps en déplacement. Et je me suis rendu compte que si j'accumulais toutes mes heures de travail, toute ma gestion de crise, j'étais payée au SMIC. Donc ça n'était pas un argument qui était valable pour me reconvertir. Et c'est comme ça que j'ai réussi à le vendre à mes parents, en disant « Mais je vais être plus heureuse !» Donc ça, c'était le premier point. Et par contre, moi, j'avais du mal à me projeter, un peu comme tu l'as dit, sur « Mais en fait, c'est quoi les métiers de la transition ?» Donc pareil, j'ai fait quelque chose de très, très simple. Je suis allée sur Jobs That Make Sense, qui est une plateforme qui regroupe pas mal d'offres d'emploi alignées avec la transition écologique et solidaire. J'ai tapé Lyon dans le moteur de recherche et j'ai regardé tout ce qui existait. Donc je pense que ça m'a pris une après-midi. Et en fait, ça m'a aidé déjà à me rendre compte qu'il y avait plein de choses à Lyon. Moi, je venais d'arriver, donc je connaissais même pas, enfin je connaissais pas Anciela, je connaissais rien. Et ça m'a aidé à me dire, en fait, il y a plein de trucs trop chouettes. J'ai lu des descriptions de postes et je me suis dit, ah, mais en vrai, j'ai peut-être pas tout, mais il y a quelque chose qui, enfin, il y a quelques petits trucs qui peuvent matcher. Et c'est là où je me suis rendu compte que je me sentais pas légitime à postuler directement, parce que j'avais pas certaines compétences, j'avais pas non plus fait énormément de bénévolat. Et l'autre chose que j'ai faite, c'est que j'en ai parlé autour de moi à des personnes qui étaient déjà un peu dans le milieu. Bon, en gros, j'avais une pote qui travaillait dans l'ESS. Et elle écoute des podcasts, elle écoutait le podcast Soif de Sens, et c'est elle qui m'a conseillé la formation. en écoutant la pub. Et là, quand j'ai vu l'Institut Transition, je me suis dit que ça matchait très bien avec ce que moi j'avais identifié qui me manquait. Ce qui me manquait, donc je me sentais pas légitime à postuler directement, j'avais pas connaissance de tous les enjeux et je sentais que j'avais besoin d'aide pour identifier quelles compétences je pourrais réutiliser. Donc ça a matché assez bien et je pense que entre mon calcul là de mon salaire SMIC, c'était le 1er janvier parce que la période de Noël est très propice à ce genre de réflexion. Et je pense qu'au bout de 2 jours, elle m'avait conseillé la formation et au 5e jour. J'ai envoyé un mail pour pouvoir rencontrer l'Institut, donc je pense que ça s'est fait très rapidement. mais en tout cas, ouais, ça, si ça peut vous aider, ces petits tips pour éliminer les peurs, j'en ai plein d'autres, mais pas de souci, vous pourrez me voir après. Et toi, Antoine ? Ça a été un
Merci
peu plus long,
Sigrun.
Je crois.
Moi, ça s'est fait vraiment par étapes, comme je le disais. J'avais besoin voilà, de me dire, en 2022, septembre, moi, ça a été l'été 2022, où j'ai passé vraiment un été un peu bizarre, où je me suis posé beaucoup de questions sur mon travail, sur moi, sur ce que je veux faire. Je venais de devenir papa. Je pense qu'il y a eu un truc qui a chamboulé pas mal de choses aussi. Et du coup, en septembre 2022, je me suis dit, je crois que c'était ça, ouais, je me donne un an pour un peu creuser mon projet, voir ce que je veux faire. Est-ce que je veux rester dans la communication, mais plus dans une structure ou dans un secteur où je partage des valeurs? Est-ce que je change complètement? Je fais une reconversion professionnelle? Enfin voilà, mais je voulais y aller vraiment par étapes. Et ce que j'ai fait, c'est un peu ce qui a été présenté aussi par Fanny, mais j'ai fait différentes étapes. J'ai été voir une conseillère en évolution professionnelle, donc avec des rendez-vous gratuits, 3 rendez-vous. Et au bout de ces rendez-vous, je me suis dit, je pense que je dois aller plus loin, en tout cas dans ma réflexion. Donc j'ai fait un bilan de compétences avec la structure ICO. Et où j'ai vraiment, ça a changé beaucoup, beaucoup de choses parce que j'avais quand même en parallèle en tête l'Institut Transition parce que depuis sa création, je l'avais vu d'un œil, je me suis dit un jour j'irai, je sais pas quand, mais j'irai. Et du coup, je l'avais quand même au fond de, un petit peu de côté, mais il fallait quand même que je creuse encore mon projet. Le bilan de compétences m'a permis d'affiner vraiment de savoir ce que je voulais, ce qui m'animait. Ce que disait tout à l'heure Fanny, c'est moi je m'y retrouve vachement, c'est que j'avais l'envie de travailler dans l'écologie, l'environnement, enfin voilà, je me disais ça. Et en fait, le bilan de compétences, non pas que ces sujets-là ne m'intéressent pas, ou bien au contraire, mais ce qui m'animait, en fait, c'était pas forcément ça, c'était plus être dans l'accompagnement. Travailler avec les citoyens et d'être un peu dans un domaine plus social, j'ai envie de dire. Et du coup, ça m'a permis d'affiner vraiment ce projet-là. Et à la suite de mon bilan de compétences, je me suis dit, il faut que je gagne aussi en légitimité. Je pense que la question de la légitimité, elle est pour beaucoup d'entre nous, en tout cas qui est un institut, elle revient souvent. Mais j'avais besoin d'aller plus loin et de pousser un peu plus ce projet, d'expérimenter. De m'outiller en tout cas, et donc c'est pour ça que j'ai postulé à l'Institut à la suite de mon bilan de compétences, ce qui nous amène en septembre 2023. Donc je m'étais donné un an, j'avais réussi, et en septembre 2023 j'ai intégré l'Institut Transition.
Je viens de me rendre compte que j'ai peut-être oublié une partie aussi du parcours, c'est que moi du coup j'ai pas eu de rupture conventionnelle, mon employeur voulait me garder. Et donc j'ai été du coup pareil aller voir une conseillère en évolution professionnelle. Et comme Fanny en a parlé tout à l'heure, j'ai créé un dossier avec elle, donc pour le dispositif démissionnaire. Et c'est un super chouette exercice déjà parce que ça nous amène à vraiment nous poser des questions de qu'est-ce qui nous motive, et c'est vraiment utile même pour le fun. Non, ne faites pas ça pour le fun, mais c'est hyper utile pour construire aussi son argumentaire quand on en parle à sa famille. Enfin, en tout cas, moi, ça m'a aidé. Et donc j'ai eu la chance de pouvoir d'avoir une réponse positive, ce qui m'a permis de démissionner en juin 2024. Oui. Qui m'a permis de démissionner et de pouvoir faire du coup mon année de transition en touchant les aides au chômage. Sinon j'avais un plan B, j'avais prévu d'être cuistot, voilà. Mais je suis contente d'avoir l'espace mental aussi de prendre une année complète pour réfléchir à ça, parce que ça prend beaucoup d'énergie et de courage de se lancer là-dedans. Donc c'est bien d'être accompagné et d'avoir l'esprit libre pour le faire.
Ouais, juste par rapport à, je rebondis par rapport à la rupture conventionnelle. Ouais, moi j'ai fait une rupture conventionnelle aussi et pour les personnes peut-être qui se posent la question, ça dépend de toutes les structures, mais moi j'avais un peu préparé aussi mon employeur un peu à cette envie de changement, ce qui fait aussi que ça a sans doute facilité les choses. Je m'entendais très très bien avec mon dernier employeur, et quand j'ai présenté la chose en disant surtout que derrière il y avait une formation, parce que j'avais ciblé l'institut, voilà, ça a grandement facilité. Ça, c'est encore une fois, ça dépend, je pense, des structures, mais de venir avec un dossier, on va dire, un peu plus complet auprès de son employeur, je trouve que ça facilite aussi les choses. C'est pas partir pour partir et toucher le chômage, entre guillemets. Moi, il y avait vraiment la réflexion et l'envie de bouger derrière. Donc voilà, ça c'est pareil, s'il y a des personnes qui se posent des questions, c'est toujours intéressant.
Merci. Alors, si vous avez peut-être suivi les années, vous vous serez peut-être rendu compte que Antoine et Ségolène n'ont pas fait Nouvelle Voix en même temps. Antoine a fini Nouvelle Voix il y a un an, et donc Ségolène est encore en train de faire Nouvelle Voix. Donc, ça veut dire qu'ils n'en sont pas au même point dans leur évolution professionnelle. Donc, je vais poser des questions différentes à chacun. Est-ce que tu peux nous dire, toi, Antoine, où est-ce que tu en es aujourd'hui, puisque donc tu t'es réinséré professionnellement. Donc, tu peux nous raconter ce que tu fais, comment est-ce que tu as trouvé ce travail, et puis comment tu te vois aujourd'hui
Effectivement, j'ai terminé l'institut en 2024. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a 3 ans, j'étais ici. L'année dernière, j'étais à la place de Ségolène, et aujourd'hui, je suis là. Donc voilà, je gravite des échelons, c'est intéressant. Et aujourd'hui, depuis janvier 2025, donc il y a 5 mois, je suis salarié d'une structure qui s'appelle Copawatt, qui est une association et une SCOP. On a les doubles statuts. Et qu'est-ce que j'y fais ? En fait, j'accompagne des coopératives habitantes énergétiques. C'est le titre de ma fonction. Qu'est-ce que ça veut dire ? Voilà, c'est toutes des coopératives, des collectifs habitants qui se montent à l'échelle locale pour porter des projets en énergie renouvelable. Donc nous, on agit, alors dans ma structure, il y a plusieurs domaines d'activité, moi je suis principalement sur celui-ci, on fait du conseil aussi en collectivité, on fait de la concertation, et on agit aussi sur des domaines beaucoup plus techniques, qui est l'autoconsommation. Tous ces domaines-là sont très complémentaires les uns avec les autres. Moi, je suis vraiment sur l'accompagnement de coopératives. Et en fait, ce que je dois dire, c'est que c'est exactement ce que je recherchais. Donc, j'ai eu la chance j'ai la chance de faire ce que j'ai envie. Donc, c'est-à-dire qu'à la sortie de l'institut, moi, j'ai fait un mémoire de recherche autour de l'émergence d'initiatives citoyennes, avec aussi cette particularité du positionnement des collectivités face à ça, comment ils accompagnent ou pas les initiatives citoyennes. Ce qui m'a amené en fait au final à voir que ce qui m'intéressait aussi, c'était tous ces projets qui étaient à la fois publics, privés et citoyens, et où le citoyen et citoyenne étaient au cœur des projets. Là, ce que je fais aujourd'hui, c'est exactement ça, c'est que j'accompagne des coopératives, des collectifs habitants, mais aussi en lien avec des collectivités pour porter des projets en énergie renouvelable. J'ai eu vraiment cette chance-là de trouver ce poste-là. Je l'ai trouvé après 3 mois de recherche, qui n'ont pas été, je dois le dire, les plus simples. Parce que quand on sort d'une année de formation, on a aussi plein d'objectifs en tête, on a envie de faire ce qu'on avait choisi. 3 mois, c'est pas grand-chose, mais ils m'ont paru assez longs quand même, parce qu'il y a aussi des questions financiers qui rentrent en compte. En tout cas, moi, ça a été le cas chez moi. J'ai eu la chance de trouver une structure, mais qui était dans l'écosystème aussi. Et ça, c'est important, mais un peu de l'ESS, parce que Copawatt, en fait, connaissait très bien l'Institut, connaissait aussi très bien Antiela. Moi, de par mes engagements, de par mon expérience à l'Institut, ça, je pense, beaucoup facilité mon intégration, en tout cas, et le choix qu'il m'ait choisi, en tout cas, dans ce poste-là, malgré une expérience qui n'était pas extraordinaire en fait. Moi, j'ai fait l'institut, et de par l'institut, j'ai fait des missions un peu dans ces thématiques-là, mais je peux pas dire que aujourd'hui j'ai une grosse expérience dedans. Et malgré tout, bah voilà, c'est aussi la confiance, c'est aussi le partage de mon parcours qui a fait mes expériences différentes, parce que mon parcours de communicant et de communication me sert aujourd'hui, parce que je fais un petit peu de communication et j'accompagne des coopératives et coopératives sur ces sujets de communication. Donc je réemploie en fait mes compétences d'avant pour les appliquer aujourd'hui dans un secteur qui me plaît, en élargissant un petit peu mes compétences d'animation, de coordination de projet, de couteau suisse, comme on a pu le dire tout à l'heure. Donc voilà un petit peu mon parcours. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions. Si, c'est bon. Voilà un petit peu ce que je fais aujourd'hui. Puis, si vous avez d'autres questions, je suis à votre dispo.
Et est-ce que toi, Ségolène, tu peux nous dire où est-ce que tu en es, ta réflexion ? Parce que tu en es un peu plus qu'à mi-parcours de Nouvelle Voie. Donc, est-ce que tu as des choses que tu sais pour la suite ?
Il y a beaucoup de choses que je sais. Déjà, je sais que je ne veux pas retourner dans mon ancienne boîte. Il faut savoir que c'était... C'est pas facile parce que c'est quand même une super boîte et que j'avais des super collègues. Mais déjà, je suis contente de me dire que j'ai tourné cette page. Et j'ai quelques critères que je vais vous lister, mais en fait, j'ai envie d'aller au travail en vélo. J'ai envie d'arrêter de faire des déplacements 3 jours par semaine. Et surtout, au niveau des missions, moi, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est 2 choses. C'est coordonner des projets. J'aime bien faire en sorte que tout soit fluide. Pour ceux qui ont fait mécanique, c'est mettre du WD-40... dans les engrenages. Et l'autre chose que j'aime beaucoup, c'est animer des collectifs. Moi, je suis convaincue que quand on est ensemble à réfléchir à un problème, en fait, on trouve des solutions qui sont généralement plus pertinentes et plus robustes. Donc, c'est 2 choses que j'ai envie de lier dans un prochain projet professionnel. Et au niveau des domaines, parce que je crois qu'il y a 2 aiguilles, il y a de la boussole. Moi, j'aime beaucoup. Enfin, j'ai retrouvé un amour, je pense, pour l'agriculture, qui est un peu issue de mes racines familiales. Et plus largement, en fait, j'adore faire des choses avec mes mains. Donc, j'adore l'artisanat, j'adore faire des chantiers participatifs et construire des yourtes. Donc, c'est un peu éloigné comme projet, mais en tout cas, ce que j'en retiens, c'est que j'ai envie d'être sur le terrain, d'être concret et qu'il y ait des gens autour pour faire des projets chouettes, dans la bonne humeur. Ça, c'est obligatoire.
Merci. Et est-ce que vous pouvez chacun partager un conseil aux personnes qui auraient envie de se lancer ? Si vous deviez en choisir qu'un seul, c'est l'exercice difficile.
Je ne sais pas s'il y en a un, mais après, moi, en tout cas, ce qui m'a aidé, c'est comme je le disais tout à l'heure, c'est de le faire un peu par étapes, c'est faire ce que vous faites aujourd'hui, c'est-à-dire aller à ce type d'événement, rencontrer un peu ces acteurs de l'ESS. Bon, en tout cas, c'est ce que j'ai fait, j'y suis allé comme ça, rencontrer des associations. Moi, je pense que le côté aussi passage à l'action est une manière en fait de se rendre compte de ce que l'on a envie. À défaut de savoir ce qu'on veut, en tout cas, on sait ce qu'on ne veut pas. Et moi, dans mes expériences, et l'Institut en fait, m'a permis aussi de le faire, c'est aussi pour ça que j'ai fait, parce qu'il y a ces 2 jours de cours que l'on a, et puis il y a le reste de la semaine où on a cette capacité d'aller à la rencontre des acteurs, d'échanger, de tester, d'expérimenter. Donc c'est vraiment ce côté passage à l'action. Alors c'est peut-être... quelque chose de simple à dire et difficile à faire. Moi, je suis pas quelqu'un qui, pareil comme Ségolène, mais qui était, j'étais un peu dans l'associatif, mais sans plus. Et le fait d'aller, j'étais aux Escales Solidaires, par exemple, le fait de faire des missions aussi avec d'autres structures m'a permis, en tout cas, d'affiner un peu mon projet, de ce que j'ai envie, d'échanger, de me rendre compte aussi de ce qui se passe dans cet écosystème. Et ce que ça m'a rendu, je me suis rendu compte, c'est par exemple mes compétences en communication, là où je voulais vraiment les mettre de côté, j'en pouvais plus. Et ben au final, aujourd'hui, je les réutilise et je suis content de les réutiliser parce que je me suis rendu compte aussi que dans ces secteurs-là, ben, y avait un besoin et ça m'a donné en fait, l'envie de continuer un peu à reprendre ces compétences. Donc voilà, le seul, unique, je sais pas si c'est l'unique conseil, mais c'est vraiment d'aller à la rencontre, de tester des choses et même si ça convient pas, bah en fait, ça sera toujours une belle expérience parce que vous allez vous rendre compte aussi d'un écosystème peut-être nouveau pour vous.
Si je devais choisir un conseil, en plus de celui d'Antoine. Je pense que je dirais ayez confiance en vous. Ouais, c'est très bateau, mais ce que je veux dire, c'est moi, une question qui me taraudait avant, c'est je me disais mais j'ai rien à apporter, qu'est-ce que je peux faire? Et maintenant, je suis convaincue qu'on a besoin de tout le monde. Ayez confiance en ce que vous pouvez apporter à la transition écologique et solidaire. Moi, ce que j'aimais bien faire aussi, c'est, je crois qu'on travaille 80 000 heures dans sa vie. Et donc, j'avais fait le détail, je me suis dit, ouais, quand même, travailler 50 000 heures pour un projet qui a du sens, ça vaut le coup. Donc, je dirais, ayez confiance en vous et vous serez, j'imagine, très surpris de voir combien de personnes vous diront, ah, t'es trop courageux, t'es trop courageuse d'avoir osé sauter le pas et de te reconvertir. Moi, c'est ce qui m'a le plus surpris quand j'ai quitté ma boîte, c'est de voir tous les gens qui m'encourageaient et qui me disaient « j'aimerais trop faire comme toi, c'est un peu trop tôt, mais ça donne beaucoup de force, donc ayez confiance en vous, et si vous ne l'avez pas encore beaucoup maintenant, prenez un peu de temps avec un papier, un crayon, et écrivez vos peurs, et puis trouvez des solutions. On a tous des peurs, il y a des solutions partout. » Voilà.
Et je vais vous donner un conseil supplémentaire, parce que Ségolène a une chaîne YouTube. Donc, est-ce que tu peux nous en parler, parce que ça peut être une bonne ressource pour avancer.
C'est vrai que je me suis dit, en début d'année, je voulais trop que mes collègues ils se reconvertissent aussi. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais documenter mon parcours. Spoiler alerte, c'est très dur de documenter une année de changement, mais j'ai quand même fait quelques vidéos, donc vous pouvez, je ne sais pas comment je peux vous épeler le nom de la chaîne, même ce sera un petit peu compliqué à écrire. Ça s'appelle les-du-6 rebond avec un S-2-DE-SEGO, S-E-G-O. Et l'idée là-dedans, c'était de montrer que la reconversion professionnelle, c'est pas facile, on se pose tous en vrai les mêmes questions. Je vous vois tous noter, c'est marrant, je vais avoir un pic de vues là ce soir. Et oui, moi j'ai fait cette chaîne pour essayer de démystifier le parcours, essayer d'inspirer des personnes, parce que ce que j'ai vu autour de moi, c'est que tout le monde a envie, mais c'est trop dur de se lancer, on a plein de freins. On a tous des backgrounds, enfin des vies qui sont différentes, avec des, enfin, il y en a qui ont des crédits, il y en a qui ont des enfants. Ben, moi, j'avais aucun des deux, donc c'était très simple sur ces points-là. Mais voilà, donc si ça peut vous inspirer, merci Fanny pour l'instant promotion.
Non, je recommande, c'est pertinent et rigolo. Vous avez déjà vu que Ségolène pouvait avoir de l'humour et vous découvrirez son chien aussi, qui fait partie de l'aventure, mais qu'on ne pouvait pas inviter ce matin. Voilà. Ce que je vous propose, c'est de prendre un temps d'échange pour que vous puissiez poser les questions qui sont peut-être apparues pendant la conférence ou que vous aviez déjà en amont. Ça peut être des questions très fondamentales, très pratiques pour Ségolène et Antoine ou pour moi. Enfin, en fait, tout est ouvert. Donc, je ne sais pas si on va pouvoir allumer les micros. Non, peut-être qu'on va faire passer un micro plutôt, oui.
Allô, allô.
Oui.
Bonjour. Donc, moi, je m'appelle Estelle. J'aimerais candidater à Institut Transition pour cette année. Et du coup, j'ai une question donc, pour vous deux. Au sujet du mémoire, comment vous avez réussi à définir précisément le sujet de votre mémoire? Parce que du coup, je suis actuellement en réflexion dessus et je trouve que ce n'est pas évident. Donc, j'aimerais bien savoir, vous, votre processus de réflexion.
Il est très tôt pour se poser cette question. Moi, j'ai la chance d'être accompagnée par Fanny pour mon mémoire. Et comment répondre simplement à cette question? Ça va être long. Tu vas être accompagnée par deux personnes qui vont pouvoir t'aiguiller. Et il n'y a pas besoin d'avoir un sujet de mémoire en rentrant. Il peut évoluer au fil de l'eau. Après, moi, ce qui m'a aidée, c'est ce que disait Fanny dans l'une des pistes, c'est de relire mon parcours et de voir quels choix j'avais fait et dans lesquels je me sentais heureuse. Enfin, en fait, qu'est-ce qui vraiment, où est-ce que je me sentais à ma place? Et ça m'a aidé à définir mon sujet de mémoire. Je dis ça, le plan n'est pas encore validé, donc peut-être que Antoine, tu pourras compléter ma réponse. Mais
moi, j'étais arrivé, du coup, comme je le disais, vu que j'ai fait par étapes, je suis arrivé avec l'institut dans une optique déjà où
où je savais sur quel sujet travailler, qui était très très large, mais par rapport peut-être à d'autres qui arrivent, ils n'ont pas forcément d'idées, et c'est pas grave. Je pense qu'il faut aussi démystifier un peu ça, et on nous le dit déjà dès l'entrée, voilà, Fanny et tous les intervenantes et intervenants, c'est pas grave. En fait, je pense que l'idée, justement, c'est que ça vienne cheminer au fur et à mesure des cours que vous allez avoir, au fur et à mesure des rencontres, des expériences, et je pense que ça va se décanter un peu naturellement. Pour revenir à moi, j'avais vraiment cette idée, je me suis dit, bah voilà, je sais que je vais travailler, j'ai pas trop bougé hein, par rapport au début et la fin sur mon sujet. Par contre, il y a eu plein de modifications un peu à interne sur des sujets par rapport aux échanges que j'ai pu avoir avec mon binôme. Voilà, je pense qu'on est aussi, il faut se rassurer, mais on est super bien accompagnés. Je dis pas ça parce qu'il y a Fanny qui est là, mais on est vraiment bien accompagnés toutes et tous. Et du coup, ces échanges-là, ces temps qu'on a de manière mensuelle, en fait, ils sont intéressants parce qu'on vient aussi travailler sur soi, sur nos envies, ce que disait aussi Ségolène dans son parcours. Et c'est ça qui va venir un peu décanter quelque chose, voilà, ton sujet, affiner un peu ta problématique, entre guillemets. Mais ça se fait vraiment au fur et à mesure. Et si tu arrives et que tu n'as pas, je veux dire, nos stress.
Ok, merci.
Peut-être juste, je vais te donner la parole pour les personnes qui ne savent pas de quoi on parle actuellement, pour les personnes qui n'ont pas encore creusé ou qui ne souhaitent pas creuser Nouvelle Voie. Nouvelle Voie, en fait, le programme de formation et d'accompagnement, il s'articule autour de 4 briques. Il y a une première brique de cours, à raison de 2 jours par semaine pour les personnes qui le font en disponibilité de septembre à avril, et puis en format soir-week-end pour les personnes en activité qui ont vocation à vraiment creuser les enjeux de transition écologique et solidaire, développer des nouvelles compétences. Il y a un mémoire qui est un mémoire personnel que les personnes vont faire sur un sujet qui les anime particulièrement et sur lequel elles ont envie de se spécialiser. Donc c'est l'occasion d'aller à la rencontre de plein de personnes et de se créer une réflexion qui va être un soutien de l'évolution professionnelle. Il y a des missions de terrain, donc c'est des missions qu'on fait auprès de partenaires, associations, institutions, entreprises, donc qui étaient évoquées par Antoine et Ségolène, où l'idée c'est vraiment de répondre à une commande pour les aider à avancer. C'est une manière de se tester dans d'autres contextes, d'avoir aussi des références qui peuvent aider pour la suite. Et puis il y a une dernière brique qui est la communauté, puisque il y a une cinquantaine d'apprenants chaque année. Donc là maintenant ça fait un peu plus de 240 personnes qui ont été formés, et l'idée c'est qu'on propose un certain nombre de temps à ces personnes-là pour se rencontrer, s'entraider et que ce soit soutien de l'évolution professionnelle. Voilà, comme ça vous savez de quoi il s'agit avec le mémoire. Je rejoins complètement ce qui a été dit. Nous sommes en mai et nous avons presque tous les sujets de mémoire de l'année en cours, enfin, c'est-à-dire qu'il y a des personnes pour qui ça prend beaucoup de temps. On pose toujours la question quand même au moment de l'inscription, parce que ça donne une indication sur avec quelles idées préalables les personnes arrivent, mais en fait, il y a des personnes pour qui ça va être un long chemin de savoir où est-ce qu'elles ont envie d'être. On dit souvent qu'il y a 2 manières de faire Nouvelle Voie. Il y a le mode voyage. Le mode voyage, c'est j'arrive, je sais que j'ai envie de contribuer à la transition écologique et solidaire, mais en fait, j'en sais pas plus. Et donc, c'est souvent ces personnes-là pour qui le choix du mémoire, c'est quand même pas évident, parce que ça nécessite d'ouvrir plein de portes pour savoir laquelle on a envie de prendre finalement. Et puis, il y a des personnes qui sont plutôt en mode tremplin, c'est-à-dire, en fait, je sais précisément où est-ce que j'ai envie d'être dans la transition écologique et solidaire, mais je vais prendre Nouvelle Voie comme un accélérateur. Donc, je vous donne un exemple. On a une apprenante, Virginie, qui est arrivée en septembre en disant « je veux être sur le réemploi des matériaux BTP ». Elle a fait que ça toute l'année, son mémoire, ses missions, parce qu'elle savait où elle avait envie d'aller. Et donc pour elle, elle le savait avant son sujet de mémoire, mais les deux sont tout à fait légitimes. Je vais monter par là-haut. Ah bah, ouais, ça va. Je pense. Moi, je choisirais pas entre les deux. Je pense qu'il faut faire les deux. Ce que je remarque, on n'a pas les chiffres exacts sur cette question, mais on le fera maintenant dans nos enquêtes d'insertion pro sur comment les personnes ont trouvé le travail. Enfin, est-ce que c'était par réseau ou par réponse à annonce ? Moi, j'ai le sentiment qu'on a bien les deux tiers où c'est par réponse à annonce. C'est-à-dire que le processus de réponse à des candidatures, ça reste quand même une vraie porte d'entrée vers les structures. Pour autant, quand on fait ça, ça ne veut pas dire que tout le travail de réseau préalable n'est pas aidant, parce que c'est ce qui va nous permettre d'avoir un CV qui est marqué par ce travail-là. Ça va nous permettre aussi en entretien de pouvoir décrire ce qu'on a compris de l'écosystème, de pouvoir éventuellement être recommandé par ces gens de l'écosystème. Donc pour moi, ça reste utile pour d'avoir un réseau pour candidater. Et après, on doit avoir un tiers de personnes où c'est plutôt de la cooptation, de l'interpellation. Et donc ça peut être soit parce qu'en effet, on est dans les réseaux, parce qu'on a fait des entretiens métiers, etc. Nous, en fait, on en voit aussi pas mal par nouvelle voie, en fait. C'est-à-dire qu'ils ont fait des missions dans une structure, donc ils continuent dans cette structure, ou ils ont fait des entretiens mémoire avec une structure, donc finalement, ils sont interpellés par la structure. Voilà, donc il y a les deux, mais en tout cas, moi, je dirais pas du tout que ça vaut pas la peine de candidater. Enfin, ça reste vraiment important dans les personnes et leurs débouchés.
Moi, en tout cas, j'ai candidaté sur une offre. J'avais pas de relation particulière avec CopaWatt. J'avais jamais eu de relation. Par contre, CopaWatt, encore une fois, connaissait bien l'institut, connaissait bien aussi Anciela parce qu'ils avaient été accompagnés dans la pépinière. Donc, je pense que ça a aidé en fait ce côté réseautage. Mais j'ai candidaté sur Jobs That Make Sense. Et voilà, il y avait pas mal là-dessus. Je pense que ça va. Mais après, je rejoins aussi beaucoup Fanny.
Bonjour et merci à vous trois. Moi, j'ai une question plutôt pour Ségolène sur le dispositif des missionnaires. Est-ce que tu as pu l'obtenir uniquement, entre guillemets, avec le projet de formation, ou est-ce que dans ton dossier, il devait y avoir une ébauche de projet professionnel, même si tu ne savais pas exactement vers où tu allais ?
Dans le dossier, il y a une partie entière où il nous invite à réfléchir à quels seraient le ou les métiers qu'on ciblerait. Donc en fait, je me suis... Enfin, une question stratégique, en fait, je me suis dit, ben, en fait, quels seraient les métiers les plus faciles pour moi d'obtenir, même si je n'étais pas sûre que ce soit là où je veuille atterrir plus tard. Mais par exemple, je me suis dit, bon, je suis ingénieur, je sais faire des calculs, autant identifier des métiers de calcul d'empreinte carbone, parce que c'était ce qui était le plus simple pour moi. Ça restait un premier pas dans la transition. Et donc c'est ce que j'avais mis en avant en disant, bon bah c'est ce que je connais, ça me déplairait pas non plus, c'est un premier pas, et donc c'est ce que j'avais mis en avant. Mais du coup, c'est plus une aide à la réflexion, et l'idée c'est d'argumenter aussi autour de ça, de si c'est le métier, en fait j'avais mis ce métier, j'avais mis un poste plutôt coordinateur, parce que j'avais fait des fresques du climat, donc coordinateur au sein de collectifs qui animent des ateliers. Donc j'avais mis les deux, et à chaque fois j'avais mis, eh ben en fait, en Auvergne-Rhône-Alpes, voici le nombre d'emplois qui répondent à ces critères, etc. Et j'avais fait un truc en plus qui m'avait été conseillé par ma conseillère, mais je crois que je suis la seule à l'avoir fait. J'ai fait une journée d'immersion qu'on peut faire quand on est en poste, dans un bureau d'études avec quelqu'un qui était chef de projet environnement, pour voir si c'est un environnement qui me plaisait. Et en fait, du coup, ça m'a pas plu. Enfin, et du coup, j'ai pu argumenter en disant, bah, en fait, j'ai testé cette piste. Chef de projet environnement dans un bureau d'études qui construit des infrastructures, bah, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Mais au moins, j'ai fait la démarche d'aller voir ce que c'était concrètement. Voilà. Et il faut savoir que moi, j'ai fait un dossier, je pense, surdimensionné par rapport à ce qui était demandé. Enfin, bon, c'est ma personnalité qui est peut-être un peu too much des fois. En échangeant avec d'autres personnes, c'était peut-être pas aussi poussé. Et là, enfin, si tu veux venir nous en parler tout à l'heure, je pense qu'on pourra aussi échanger sur notre ce qu'on a mis dans nos dossiers, et c'est assez varié en fonction des profils. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Ouais.
Mais c'est vrai que les conseillers en évolution professionnelle, ils sont vraiment là pour outiller là-dessus, et nous aussi, côté Institut Transition, on aide les personnes qui souhaitent suivre Nouvelle Voie à remplir les dossiers, donc on peut aider sur ces questions de métier, sachant que, bien sûr, c'est le but, c'est de voir quelle est la projection que vous avez. C'est en rien contraignant pour la suite.
merci. Merci à tous les trois. C'est plus une question pour l'Institut de Transition. Est-ce que vous avez une idée de la part des profils qui partent plutôt vers l'entrepreneuriat ou c'est plutôt et uniquement du salariat qui débouche après le parcours transition?
Eh bien oui, on a une idée. Je vais dire en gros les stats en général et ça me permettra de rentrer plus particulièrement sur cette question de l'entrepreneuriat. Ce que je vais vous dire, c'est nos enquêtes d'insertion professionnelle à 12 mois. À 12 mois, on est autour de 95% de personnes qui sont insérées professionnellement. Donc les restants, ça peut être soit des personnes qui recherchent encore du travail, soit des fois on a aussi des personnes qui ont pris du temps, enfin pour tout un tas de raisons, enfin notamment de santé, mais pas que. Et donc après, sur les débouchés, le premier débouché, c'est je recherche du travail dans une structure engagée. Donc ça peut être soit des personnes qui sont vraiment en reconversion totale, c'est-à-dire qui font pas du tout la même chose qu'avant et elles ont rejoint une structure engagée, soit certaines ont gardé leur métier mais dans une structure engagée. Enfin, typiquement, je faisais de la com et maintenant je le fais dans une asso. Voilà. Donc ça, c'est le plus gros. Je pense autour de 40%. Après, on a, j'irais, à peu près 25% de personnes qui entreprennent. L'entrepreneuriat, c'est le deuxième débouché de Nouvelle Voie. Et là, ça peut être soit des personnes qui vont vraiment créer un projet. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment créer un projet ? C'est je vais créer une association, je vais créer une entreprise, mais qui a vocation à être collectif. On a des personnes qui vont plutôt entreprendre, mais sous format indépendant, c'est-à-dire qui vont plutôt faire de la prestation de services intellectuels, souvent en fait sur leur métier de base, mais avec une teinte éco-responsabilisation. Enfin, je pense à un apprenant qui est là, qui a travaillé dans le secteur BTP. Ben maintenant, il accompagne la transition écologique du secteur BTP. Donc, c'est bien... l'entrepreneuriat, ça reste quand même un vrai débouché pour les personnes. Et puis après, on a des personnes qui restent dans leur entreprise, soit parce qu'ils ont une évolution de poste dans l'entreprise. Donc, je ne sais pas, il y a un poste qui s'ouvre sur la responsabilité sociale et environnementale de l'entreprise, soit parce qu'ils essayent de faire bouger les choses de l'intérieur sans avoir de poste vraiment dédié. Et puis après, on a quelques personnes aussi, c'est le dernier débouché, qui reprennent une formation. C'est assez minoritaire et c'est toujours sur des choses très précise, à savoir je veux faire un BPREA maraîchage. Enfin, souvent. Enfin, donc sur des choses, des métiers manuels, quoi. Donc oui, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'important et souvent les personnes, dans ce cas-là, elles essayent de lier le mémoire avec le projet entrepreneurial. Le but étant que le mémoire soit pas un business plan à proprement parler, mais soit plutôt l'occasion d'aller creuser le besoin auquel on entend répondre. Je vous donne un exemple. Je pense à une apprenante qui était là et qui ne doit pas être très loin, qui est en train d'ouvrir un gîte et un tiers-lieu éco-responsable. Elle a fait tout son mémoire sur comment les lieux peuvent accélérer les prises de conscience et la transition écologique. Le but, c'était vraiment d'aller creuser le fond, là où parfois, quand on se lance direct dans la dimension entrepreneuriale, on peut être vite en mode « Ah, je vais faire le budget ». Et on qualifie un peu moins ce à quoi on a envie de répondre. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ?
Bonjour, on m'entend ? Oui, c'est bon, bonjour. Bah, déjà, merci à tous les trois pour cette première conférence. Ma question, alors pour Ségolène, c'est peut-être un peu tôt, mais c'est peut-être du coup plus pour Antoine. Est-ce qu'au niveau financier, tu arrives à te retrouver par rapport à ton poste d'avant, ton poste d'après, ou est-ce que, enfin, comment tu as réussi à gérer ça?
Oui, je m'y retrouve. Moi, je pense que par rapport à un profil ingénieur qui peuvent avoir vraiment des salaires un peu plus importants que ce que moi je percevais, moi, en toute transparence, avant...
Donc je travaillais dans une structure où justement les conditions étaient plutôt bonnes, je trouvais, mais je percevais 2003-2004 net par mois, sans compter d'autres avantages et primes. Donc c'est plutôt vraiment plus que correct et ça correspond aussi à un niveau de vie moi que j'ai pas, je suis pas un grand dépensier. J'avoue que cette question financière, elle est quand même rentrée en ligne de mire quand j'ai cherché. Non pas que je cherchais forcément à avoir la même chose, mais par contre voilà, j'avais en tout cas un minimum où si je descendais, ça pouvait être un peu plus compliqué. Et ça, je m'en suis rendu compte en percevant le chômage. Et je percevais un chômage qui était de 1650-1600 euros. Qui, à l'époque, moi, je me dis, 1600, c'est parfait, ça correspond un peu. Je me suis rendu compte, voilà, avec un enfant, n'ayant pas forcément un crédit énorme, mais que j'étais ric-rac. Et du coup, ça me stressait un petit peu. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'ai la chance. Et en fait, la structure aussi fait en sorte, enfin, Copawatt, d'avoir en fait des salaires qui sont plus que raisonnables, en fait, dans le monde de l'ESS, hein, je considère, parce que je perçois la même chose. Je suis à 2350 aujourd'hui net, ce qui est, je trouve, quand même très très bien par rapport à ce qu'on peut voir dans d'autres structures. Donc du coup, c'est même au-delà de ce que moi je pouvais, la barrière que je m'étais donnée. Mais en tout cas, oui, je m'y retrouve carrément. Encore une fois, je ne cherchais pas forcément à avoir plus, mais moi, un salaire autour de 1009-2000, ça allait très très bien. Voilà. Après, je pense que Fanny pourrait aussi en dire un peu plus sur les différences qu'il peut y avoir dans l'ESS. Je crois qu'il y a une moyenne qui est faite, en tout cas dans les stats aussi, sur ce qu'on peut percevoir. Mais ça, c'est pareil, il faut voir en fait suivant les structures. Mais là, je pense que moi, je suis, par rapport à des structures de l'ESS, quand même sur la fourchette haute, je pense. Mais c'est parce que du coup, on fait en sorte d'avoir une production qui nous permettent en fait d'avoir ce salaire-là en fait, hein, donc voilà.
Ouais, pour donner des éléments, je vais rechercher le salaire médian parce que j'ai un problème de mémoire de chiffres, mais en fait, bon, déjà quand on se pose pas mal la question de l'argent, ce qui est tout à fait légitime, un outil qui peut être aidant pour essayer d'objectiver les choses, c'est de faire ce qu'on appelle son revenu indexé sur le besoin. Donc c'est un petit outil qui a été vulgarisé par les écolo-humanistes. Donc vous pouvez taper RIB indexé sur le besoin. C'est un certain nombre de questions qui ont vocation à vous aider à calculer votre salaire plancher, quoi. C'est, en fait, si je suis en dessous de ça, ça me met en difficulté. Ça, c'est un petit tips que je vous conseille. Ça permet de mettre un peu d'objectivité dans la question et de se poser la question de ce qui va être vraiment notre besoin financier et ce qui se rapproche plus d'un besoin aussi de reconnaissance sociale, qui peut être légitime, mais qui vient... Enfin, c'est autre chose, en fait. Voilà, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'après... Sur ces questions de salaire, ça va vraiment énormément dépendre de dans quel type de structure vous allez et sur quel type de poste. C'est-à-dire que nous, on a des apprenants suite à Nouvelle Voie qui gagnent 4000 euros par mois. Par contre, ils sont consultants dans des boîtes de conseil en analyse de cycle de vie. Donc finalement, ils sont dans des types de métiers de conseil qui se rapprochent en fait... pas mal de ce qui pourrait exister par ailleurs. Et puis, on en a qui rejoignent une petite association de sensibilisation qui se lance et où là, c'est au SMIC. Pour moi, il y a vraiment cet enjeu de... c'est pas pareil d'être animateur que d'être à la direction d'une structure quand les structures, elles sont pas sur une pratique d'égalité salariale. Donc, posez-vous la question du prix, de votre salaire plancher et après, ça va vous donner des pistes sur ce que vous pouvez... envisager ou non comme évolution, enfin en termes de radicalité, si je puis dire. Et ça fait aussi vraiment partie des sujets sur lesquels on accompagne pas mal les apprenants pour que ça soit plus aidant. Et je vais peut-être réussir à retrouver le...
Et juste pour compléter aussi par rapport à moi, moi j'ai pas eu de négociation en fait avec mon employeur. C'était d'ailleurs que là il y a grille tarifaire qui était déjà tous donnée. Nous on est dans une gouvernance partagée, donc voilà, le salarié un salarié égale un vote, en tout cas. Donc, il n'y a pas de hiérarchie non plus. Et donc, du coup, moi, je recherchais aussi ça parce que voilà, je ne suis pas un bon négociateur. Et puis, je trouve que et puis, voilà, le fait d'avoir quelque chose qui est assez cadré dans le cadre de la structure, c'était toujours bien. Donc, ça dépendait de mon expérience. Enfin, voilà. En tout cas, c'était très clair, très ouvert et du coup, très transparent. Mais moi, c'est ce que je recherchais aussi.
Et on me souffle dans l'oreillette que c'est marqué dans un article du magazine Agir à Lyon qu'en gros, le salaire médian, c'est 2004 brut, mais ce qui correspond au salaire médian en France, en fait. Mais pareil, il y a des amplitudes de salaire, en fait, assez importantes derrière. Et donc, c'est là qu'il faut aller regarder en fonction du type de poste. Je vois qu'un certain nombre de personnes commencent à partir. On pourra prendre peut-être les questions en face à face derrière. Peut-être juste pour vous dire la suite. Donc naturellement, on est à votre disposition toute la journée. Il y a des conférences, des ateliers, des temps d'échange en stand. Donc n'hésitez pas à venir échanger avec toutes les structures. Si vous ne le savez pas, si vous avez envie d'échanger avec une personne de l'Institut sur votre évolution professionnelle, soit parce que vous avez envie d'avoir un regard, des partages de préconisations, soit parce que vous vous posez la question de nouvelles voies mais vous ne savez pas trop, c'est possible de demander ce qu'on appelle un rendez-vous d'orientation. Les rendez-vous d'orientation, ils se demandent en ligne. Je crois que vous pouvez aussi en demander un sur le stand. Et donc, c'est une personne de l'Institut qui est choisi en fonction de votre profil pour prendre une heure et demie pour échanger avec vous. Donc c'est naturellement gratuit et sans engagement. Donc on est vraiment à votre disposition pour échanger là-dessus. Voilà. Et je vous remercie pour votre présence. Bonne journée à tous et à toutes.